l'ONU dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, les assises nationales au Niger, un mandat de 5 ans renouvelable, la dissolution des partis politiques entre refondation et controverse. Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord crucial pour la paix après 40 ans de conflit. C'est notre fait marquant de la semaine. Au Soudan, une fille de 14 ans lutte pour prendre en charge sa famille dans un camp de réfugiés au Tchad après avoir fui la violence du Darfour. Les Invertueuses, un film qui bouscule les normes sociales au Burkina Faso, à découvrir durant le FESPACO 2025. Gilda Sta est à Ouagadougou. Vous suivrez son reportage. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et YouTube. Encore une fois, bienvenue. Les assises nationales au Niger ont recommandé que les militaires au pouvoir restent au moins 5 ans avec une charte de gestion en période de refondation. Parmi les propositions, la dissolution des partis politiques a suscité des réactions mitigées. Également, des débats sur la démocratie et la gouvernance ont émergé. C'est un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
De toutes les recommandations des 700 délégués aux assises nationales, celle proposant aux militaires de dissoudre les partis politiques a été la plus commentée.
Il faut dissoudre les partis politiques pour aller vers une structuration à travers la charte nouvelle qui ne fera pas d'un individu mon parti à moi, ou le parti de chez moi, ou le parti de mes amis. C'est ça qui est bien.
C'est une aberration, et notamment en matière donc de démocratie et de géopolitique.
Pour les acteurs politiques comme Issoufou Tambura, les auteurs de la proposition veulent simplement induire les militaires en erreur.
Pourquoi les dissoudre? Et puis surtout dire qu'on va en créer d'autres. Et on fixe même le nom comme un numerus clausus. Non. En démocratie, parce que nous sommes en démocratie. Et la junte ne l'a pas démenti. Suspendre les partis politiques est une erreur. Les dissoudre est une faute grave contre la nation. J'ose espérer qu'ils ne vont pas franchir cette ligne rouge.
Parmi les recommandations et propositions des assises nationales, figure l'élévation au grade de général d'armée du chef de la junte, qui sera aussi amnistié avec ses compagnons d'armes pour les faits du coup d'État qu'ils ont perpétré. Les participants ont par ailleurs recommandé que la lumière soit faite sur l'assassinat en 1999 du général Ibrahim Baré-Mé Nassara, alors président du Niger, de même que sur les différents scandales financiers des régimes précédents.
C'est une nouvelle feuille de route que le Niger vient de prendre. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour l'État du Niger.
Et ils ont tenu compte de nos problèmes et ils ont touché le fin fond du problème nigérien. On ne peut que dire merci.
C'est une fierté pour tout le Niger, mais aussi c'est une fierté pour l'Afrique. L'Afrique progressiste, l'Afrique qui envisage de se libérer de l'emprise de l'impérialisme. Nous sommes fiers que le peuple nigérien, ensemble, à l'interne comme à l'externe, a donné ses réflexions, ses fruits pour une refondation.
Les assises nationales ont en effet décidé aussi que la période de gestion du pouvoir d'État par les militaires s'appellera refondation et non transition. Le projet de charte de cette refondation sera transmis au chef de l'État pour être promulgué. Elle aura valeur de constitution. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Merci à Abdelrazak Idrissa pour ce reportage. Il est en ligne avec nous. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, les diverses forces vives de la société nigérienne ont-elles été représentées dans ces assises?
Oui, en tout cas, c'est l'essentiel des différentes couches socio-professionnelles du pays qui ont pris part à ces assises, avec des représentations plus ou moins proportionnelles à leur représentativité dans la société. Les seuls, peut-être en tout cas, qui n'ont pas été présentes à ces assises-là, c'est les formations politiques. Vous savez que depuis le lendemain du renversement du régime du président Mohamed Bazoum, en juillet 2023, les activités des formations politiques, des partis politiques ont été suspendues et donc il n'y a pratiquement pas eu d'activité politique depuis 19 mois. À l'occasion donc de ces assises, les autorités du CNSP qui ont organisé ces assises nationales ne les ont pas invitées. Mais à part ces couches, donc ces partis politiques, presque toutes les couches socio-professionnelles du pays ont été conviées à ces assises nationales. Il y en a certaines, à l'image par exemple du barreau, qui ont décidé de simplement s'abstenir de prendre part. Mais sinon, toutes les couches socio-professionnelles du pays étaient présentes à ces assises.
Alors, quelle est la perception publique des recommandations issues des assises, notamment la prolongation du pouvoir militaire? Nous avons entendu quelques réactions dans votre reportage.
Oui, mais des réactions qui ont plus porté, si vous voulez, sur la question de la suspension de la proposition qui a été faite par les délégués de supprimer les partis politiques pendant cette période de refondation. Mais sinon, de façon générale, dans l'opinion, ce sont plutôt des réactions, on va dire, positives qui ont été enregistrées à la suite des recommandations qui ont été formulées par les délégués à ces assises nationales, puisque vous savez, en dehors de la suppression des partis politiques, il y a eu d'autres résolutions. Par exemple, le fait d'élever le général Abdrahmane Tchiani au grade de général d'armée. Le fait aussi, pour les questions de justice sociale, de revenir sur des scandales financiers notamment, mais aussi d'autres types de sujets.
Vraiment, Razak, comment les médias locaux ont-ils couvert cet événement et quelles critiques ont émergé? Parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas été associés, notamment les partis politiques et d'autres organisations de la société civile, rapidement.
Oui, et rapidement. En tout cas, les médias ont été du début à la fin de ces assises présents, les médias nationaux, je vais dire, notamment. Ils ont été présents chaque jour, ils ont fait le point des travaux, ils ont couvert l'activité de son début à la fin. Maintenant, les critiques, c'est essentiellement, comme ça a été dit dans le reportage, c'est essentiellement des voix, notamment des acteurs politiques qui sont élevés pour s'opposer, pour décrier le fait que la proposition de suppression des activités, disons, des partis politiques a été prise et proposée aux leaders, disons, aux responsables du CNSP, encore que beaucoup espèrent, en tout cas on l'a entendu aussi même dans le reportage, certains acteurs espèrent que quand même les autorités du CNSP ne vont pas aller jusqu'à cet extrême de dire, de dissoudre donc les formations politiques. Mais sinon, c'est essentiellement sur cette question qu'il y a eu.
Merci Razak pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires sur notre page Facebook. Jonas Nabirou, il dit ceci: les militaires ont trouvé une nouvelle tactique. Ils organisent ce qu'ils appellent des assises nationales, puis ils se donnent le privilège de s'octroyer 5 voire 10 ans de pouvoir. La politique militaro-populiste a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alphonse Mbouaki, à Kinshasa, il dit ceci, je cite: les conclusions des assises au Niger ont permis à la junte de s'octroyer le pouvoir en éliminant toute voix dissidente. Cela pourrait entraîner une dérive totalitaire et une dictature, avec pour conséquence des violations des droits humains et des abus de gouvernance. Les militaires sont censés sécuriser le pays, tandis que les civils gèrent la politique. Enfin, Charles Bazema, il dit « Seul le peuple peut conférer légitimité à un pouvoir si le peuple nigérien estime que les militaires à la tête du pays servent leurs intérêts et contribuent au développement du pays. » Alors, leur maintien au pouvoir peut être justifié. Quant à la dissolution des partis politiques, je pense que c'est un mal nécessaire, car la politique en Afrique est souvent un système de pillage des biens publics plutôt qu'un véritable processus de construction des États. Fin de citation. Nous poursuivons cette discussion avec notre analyste Saïdik Abba, journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel, auteur d'un ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, s'interroge-t-il dans cet ouvrage. Saïdik, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, un commentaire rapidement sur ces points de vue exprimés par nos auditeurs.
Oui, il y a plusieurs, il y a différents points de vue. Et je pense que ce qui peut émerger, comme il a été dit, c'est la question de la dissolution des partis politiques, de leur crédibilité. Et associé à la dissolution de partis, il y a le retour du multipartisme limité, puisque les participants aux assises ont dit que le nombre de partis ne doit pas dépasser 5 après la charte qui va être élaborée à l'issue justement de consultation et du travail de la Commission nationale qui va déposer son rapport auprès du CNSP. Et cette question est populaire parce que quand on n'est pas du Niger et tant qu'on n'a pas vécu ou suivi la politique nationale au Niger, on peut être surpris par la dissolution des partis et la limitation. Mais dans la réalité, c'est qu'au Niger, les gens se disent que tous les partis ont été essayés. Il n'y a pas aujourd'hui un grand parti au Niger qui n'a pas participé depuis l'avènement du multipartisme en 1991 à la gestion du pays avec les mêmes résultats. Et cette forme d'exaspération a créé dans l'opinion le sentiment que les partis qui existent aujourd'hui, même si on remet le pouvoir aux civils, vont créer encore les conditions de notre coup d'État, puisque le pays a connu un coup d'État.
Oui.
L'autre chose, à mon avis importante, j'en termine par là, c'est que le nombre de partis au Niger, c'est 160. Ça ne correspond pas à 160 offres politiques. Le parti est devenu un business, vous créez votre parti, vous avez 3 ou 4 militants, vous êtes le président, le trésorier et le militant, et vous dites que vous avez rallié le camp au pouvoir, ensuite vous rentrez dans la clé du partage. On vous donne la sous-préfecture, on vous donne la préfecture, sur les sorties importantes, on vous donne l'ambassade, les DG. Donc, c'est ça qui a créé un peu le divorce entre les partis politiques et l'opinion, et les militaires se sont engouffrés dans ça. Ils ont compris qu'il y a une brèche, ils se sont engouffrés là-dedans pour discréditer le parti et se présenter en seule alternative pour la vie du pays.
C'est dit qu'avant les partis politiques, avant les civils, il y avait d'abord les militaires qui ont été aussi essayés. Est-ce qu'on retourne à la case départ?
Les militaires sont arrivés au pouvoir au Niger après l'indépendance en 1974. Le premier parti, le PPNRDA, le parti progressiste nigérien section du Rassemblement démocratique africain, avait gagné les élections et a dirigé le pays jusqu'au 15 avril 1974. Les militaires ont pris le pouvoir entre le 15 avril 1974 et le 10 mai 1987, qui correspond à la date de la mort du président Séni Kouchi. Après, il y a eu en 1991 l'avènement du multipartisme. Si on regarde concrètement, on met d'un côté les réalisations des régimes militaires et d'un côté les réalisations des régimes civils, je ne suis pas sûr que les régimes civils aient été plus vertueux que les régimes militaires, y compris dans la gouvernance économique et sociale. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut les militaires... Leur vocation n'est pas d'exercer le pouvoir politique, surtout dans le contexte des pays du Sahel où ils ont la guerre à faire au lieu de se consacrer à la politique. Mais il faut aussi qu'on tire des leçons, je crois que c'est ce que les Nigériens veulent, qu'on tire les leçons de l'échec de la gouvernance démocratique pour pouvoir comment on peut l'améliorer et éviter de donner à chaque fois le prétexte. Le Niger a connu depuis 1965 5 coups d'État militaires. Oui. Il faut qu'on regarde pourquoi il y a les coups d'État militaires. Ce n'est pas simplement parce que les militaires veulent le pouvoir, c'est aussi parce que les partis politiques leur donnent le prétexte de vouloir prendre le pouvoir.
C'est dit que rapidement, quelle résolution des assises vous semble cruciale?
Moi, je crois que la question de la nouvelle charte des partis politiques me semble être importante. Poser les fondements d'une nouvelle gouvernance de la vie démocratique. Mais la prolongation du bail des militaires pour 5 ans me paraît être quelque chose de totalement déraisonnable.
Oui. Quelles erreurs les militaires au pouvoir devraient-ils éviter pour ne pas tomber dans leur propre piège?
Ils devraient éviter de prendre goût au pouvoir et de vouloir organiser des élections pour se succéder à eux-mêmes. Aujourd'hui, la mode, c'est que, comme a dit un de vos auditeurs, on donne un vernis démocratique ou populaire au pouvoir en organisant des assises auxquels, même si toutes les couches ont participé, le processus par lequel on a choisi les gens n'a pas été démocratique. Vous prenez la diaspora,
il n'y a pas eu de concertation pour que les Nigériens de France, d'Allemagne, etc., puissent être valablement représentés. Il y a des gens qui ont été désignés et on ne peut pas considérer ça comme quelque chose de totalement démocratique. Donc, il faut que les militaires évitent, justement, après avoir pris goût au pouvoir, de vouloir créer les conditions de succéder à eux-mêmes et de vouloir s'éterniser au pouvoir, parce qu'eux-mêmes vont commettre les mêmes erreurs que les partis politiques et on risque de se retrouver à considérer désormais que le mode d'alternance politique va devenir le coup d'État dans les pays du Sahel et au Niger éventuellement, et ça, ce n'est pas une bonne chose.
Il nous reste 20 secondes, Saïdik. Selon vous, des attentes ou des réponses urgentes à la situation socio-économique du pays?
Ah oui, ça rapidement, il faut améliorer le pouvoir d'achat. Surtout, on rentre dans quelques jours dans le Ramadan. Si les gens ne peuvent pas accéder au sucre, au lait et à l'huile, c'est clair que c'est un problème. Il faut rapidement régler cette question de gouvernance parce que le Niger est devenu un pays producteur de 100 mêmes villes de barils par jour. Si on ne le ressent pas dans l'assiette de la ménagère, ce ne serait pas et ce serait un défi pour les militaires eux-mêmes.
Et le chômage?
Le chômage des jeunes qui donne le terreau favorable au recrutement des terroristes. Si on ne règle pas ces questions, par exemple l'accès des jeunes à l'emploi, on ne peut pas régler la question du défi sécuritaire en achetant uniquement des drones à la Turquie ou des MiG à la Russie. Il faut absolument construire une réponse holistique au défi sécuritaire. Et cette réponse holistique comprend la question du chômage des jeunes, la question de la justice et la question de la cohésion sociale.
Merci beaucoup, Saïdik Abba. Je signale que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Merci pour toutes ces explications.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Direction le Soudan pour parler de Guesma. Une jeune fille de 14 ans, elle a fui la région du Darfour après que des milices armées aient tué ses parents et son frère, la laissant responsable de ses frères et sœurs plus jeunes. Aujourd'hui, vivant dans un camp de réfugiés au Tchad, elle travaille de longues heures pour nourrir sa famille. Une réalité partagée par de nombreux enfants déplacés par la violence brutale au Darfour. C'est un reportage de Henry Wilkins et récit signé Jacques Aristide.
Guesma, 14 ans, est arrivée il y a 2 ans dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et la région soudanaise du Darfour. Elle dit avoir fui le Darfour après que des milices arabes ont tué sa mère, son père et son frère. La VOA ne divulgue pas son nom de famille pour protéger son identité.
Ils ont tué mon petit frère. Ensuite, ils m'ont attrapé puis relâché. J'ai vu beaucoup de morts quand nous étions sur la route.
Guesma a fait le voyage jusqu'au Tchad avec ses jeunes frères et sœurs et son beau-père. Aujourd'hui, elle travaille dans les cuisines et est serveuse dans un restaurant de la ville d'Adé.
Je lave les vêtements et je nettoie aussi les meubles, c'est mon travail. L'argent que je gagne, je le donne à ma famille pour qu'on puisse acheter de la nourriture.
Elle dit qu'elle est le seul soutien de la famille, y compris de son beau-père qui est au chômage. Les travailleurs sociaux d'Adré ont déclaré à la VOA que les adolescentes, comme Guesma, qui travaillent dans les boîtes de nuit locales, sont souvent victimes d'abus de la part de leurs employeurs et de leurs clients. L'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, affirme que le travail des enfants à Adré est un problème majeur.
It's very difficult to... Il est très difficile de disposer de statistiques claires à ce sujet, mais c'est un problème important.
On peut voir de nombreux enfants fabriquer des briques en banco et travailler sur les marchés d'Adré. Selon Kadzato, s'ils travaillent, ils s'exposent non seulement à des dangers potentiels, mais ils sont également privés de leur éducation et surtout de leur enfance. Selon elle, les enfants qui arrivent à 100 personnes pour s'occuper d'eux sont particulièrement vulnérables à l'exploitation.
Les enfants qui sont arrivés complètement seuls, c'est-à-dire sans soins, sans personne qui s'occupe d'eux, comme ceux sans parents ou sans aucun membre de la famille, sont les plus vulnérables parce qu'ils sont vraiment arrivés seuls.
Gesma dit qu'elle souhaite simplement que les choses redeviennent à ce qu'elles étaient au Darfour, quand elle avait l'habitude de passer du temps avec ses amis.
Mes amis ont été tués. Elles étaient trois. J'allais à l'école avec elles.
Avec la disparition de tant de personnes qu'elle aimait et la responsabilité de subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, il y a peu d'espoir que sa vie redevienne normale.
Le Sénégal et la rébellion indépendantiste de Casamance ont signé à Bissau un accord important pour la paix définitive dans cette région. Après plus de 40 ans de conflit, l'accord prévoit la démobilisation des rebelles et leur réinsertion. Il fait suite à plusieurs tentatives de pacification. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Ibrahima Kane, chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, Monsieur Kane.
Bonsoir, Eric.
Quel est l'impact potentiel de cet accord sur la stabilité de la région de Casamance?
Mais l'impact est fondamental parce que vous vous rappelez que le président Diomaye, quand il est venu au pouvoir, l'une des plans qu'il avait proposé, c'était un plan pour la Casamance. Cette réconciliation entre les fils et les filles du Sénégal va permettre la mise en œuvre de ce programme de la Casamance. Et c'est donc un atout majeur pour le gouvernement sénégalais qui entend consacrer une partie de ses efforts pour réconcilier les Sénégalais. Et donc, la signature de ce, en tout cas de cette convention à Bissau, c'est un pas important vers la pacification totale de la Casamance.
En quoi cet accord diffère-t-il des initiatives de paix précédentes?
Alors, c'est d'abord le rôle que certains facilitateurs ont joué. Ces facilitateurs sont considérés comme des gens sérieux, surtout l'Église italienne en particulier, qui a joué depuis le début un rôle important là-dedans. Et les voisins du Sénégal, la Guinée-Bissau, est un acteur important comme la Gambie. Et donc, si l'accord est signé à Bissau, sous la présidence du président bissau-guinéen, ça veut dire que l'engagement du Sénégal est fort et l'engagement de la partie qui pratiquement assure le respect de ces accords-là est aussi très fort parce que c'est le président bissau-guinéen qui a signé et ça donne beaucoup de force à l'acte qui est posé par les belligérants.
Selon vous, cet accord a-t-il de bonnes chances de tenir à long terme comparé à ceux signés dans le passé ? Je parle du contenu.
Tout à fait. Il y a juste un élément du contenu qui, jusqu'à présent, n'a pas été vraiment accepté de part et d'autre. C'est la question de la grâce présidentielle et c'est de la question de l'amnistie. Vous savez, au Sénégal, actuellement, pour les raisons liées à l'expérience politique récente, amnistier est devenu une chose que les gens ne veulent pas entendre parler, elles ne veulent pas entendre parler parce que c'est essayer de donner une sorte de prime aux criminels et autres. Et dans cette situation de la Casamance, il faut bien que les gens se pardonnent. Il faut bien que les gens acceptent de mettre de tourner la page des crimes du passé et d'aller de l'avant. Et donc tant que ce texte-là ne sera pas adopté, il n'y aura pas véritablement de paix. Et les gens pensent également que la grâce présidentielle peut aider à résoudre certains la situation de certains cas avancés qui sont actuellement en prison pour des crimes graves qui ont été commis. Là également, on attend de voir, le 4 avril n'est pas loin, donc le président pourrait éventuellement profiter de cette occasion pour gracier. Mais sur la question de l'amnistie, je pense que ça va encore poser de sérieux problèmes.
Ibrahima Khan, chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest, merci beaucoup pour toutes ces explications. La 29e édition du FESPACO a débuté samedi dernier à Ouagadougou. Parmi les films en compétition dans la catégorie fiction des longs métrages, on trouve Les Invertueuses, une œuvre qui défie les conventions et remet en question les normes sociales. Réalisé par la Burkinabé Aïcha Chloé Boro, le film raconte l'histoire de deux femmes en quête d'autodétermination et d'émancipation, malgré un contexte sécuritaire complexe. Des explications dans ce reportage de Gilles Dasta.
Dans un contexte marqué par le terrorisme, Nati, une adolescente de 16 ans un peu rebelle sur les bords, porte un combat, celui de s'émanciper en tant que femme, tout en luttant pour que sa grand-mère devenue veuve puisse retrouver son amour de jeunesse.
Puis je vois pas pourquoi elle aurait pas le droit.
Parce que ça n'existe pas.
Les deux femmes sont les héroïnes du film Les Invertueuses de la réalisatrice burkinabé Aïcha Chloé Boro.
En gros, le propos du film, c'est de dire que l'amour sentimental, le désir n'ont pas d'âge pour s'exprimer de façon belle et vertigineuse, qu'on peut avoir 65 ans et aimer très fort et que c'est pas sale. Dans nos sociétés, on a l'impression que quand une femme atteint un certain âge, elle n'a plus le droit à certaines choses. Elle n'a plus le droit d'aimer, elle n'a plus le droit d'avoir du désir, sinon c'est sale.
Le combat de Nati pour le bien-être de sa grand-mère se déroule dans une situation de crise sécuritaire où la femme subit encore plus de dommages. L'engagement militant de l'adolescente va l'amener à s'engager auprès de l'armée pour lutter contre les groupes terroristes. Son ambition, montrer que la femme compte tout autant que l'homme, même en période de guerre.
On n'est pas plus peureux que les hommes. Toutes les places que la société va nous ouvrir, on va les occuper. Et ce film dit, on ne va pas attendre que la société nous ouvre des places. On veut occuper plus de place dans la société, y compris des places militaires, y compris des places pour défendre le pays. Et il faut arrêter de croire que chaque fois qu'une femme conquiert un espace, c'est un espace que l'homme perd. C'est faux. C'est juste un espace que la société gagne. Et c'est aussi le propos du film.
Avec ce film, Aïcha Chloé Boro est l'une des deux Burkinabés en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie fiction long métrage. Les joutes s'annoncent serrées, mais ses chances sont réelles selon Abraham Bailly, président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina.
Aïcha Boro, on la connaît dans le documentaire. On voit qu'elle arrive dans la fiction avec un excellent film. Il y a de belles images, c'est de belles prises. Il y a la direction photo aussi est très impressionnante. Les séquences de nuit et les séquences de jour, on voit que bon, c'est bien fait. Donc elle a son mot à dire dans ce FESPACO.
Dans les rues de Ouagadougou, on espère que le trophée majeur reste au Burkina.
Cette année-là, nous allons remporter l'or là, ça c'est sûr.
Kevin Sou, conseiller en cinéma et audiovisuel, lui, croise les doigts.
Bien sûr, en tant que Burkinabé, quand même, c'est souhaiter en tout cas bonne chance à nos candidats.
La candidate Aïcha Chloé Boro s'est dit sûre, elle va conquérir le jury.
Ce FESPACO est pour les femmes et pour le Burkina.
Après 2019, où elle avait été la première femme à remporter l'étalon d'or dans la catégorie documentaire, Aïcha Chloé Boro espère être la première femme à remporter l'or dans la catégorie reine, où elle est en compétition avec ses autres concurrents. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci de nous avoir suivis. Eric Manilakiza à ce micro. Production et réalisation, Trésor Matondo et Joselle Morissin. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel. À très bientôt. Au revoir.
C'est
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.